Vous allez bien? Voilà, c'est ça. Qui me croit si je vous dis que je stresse un petit peu? On pourrait dire que c'est pas la première fois que je monte, donc pourquoi est-ce que je stresserais? Les amis, ce n'est pas pareil. Donc priez pour moi dans vos cœurs, priez pour mon mari également, même s'ils sont plus à l'aise que moi. Joseph a raison, donc on va prêcher en famille. Ma petite est derrière, elle ne m'a pas encore vue ce matin. Donc si elle vient sur la chair, ne soyez pas surpris. Fichez-vous être indulgent également avec elle. Alors, au cours du message, oups, on va avancer. Voici le titre de notre méditation, l'unité selon Dieu. Donc ne soyez pas surpris. Au cours de notre message, on va proposer beaucoup de textes. On ne pourra malheureusement, pour une question de temps, on ne pourra pas tous les lire. Cependant, on vous invite à les noter sur votre téléphone ou sur un papier pour poursuivre la réflexion au-delà du moment qu'on va passer ensemble. Ça va? Pour être comme les Béréens, ceux qui notent et qui vérifient ce qu'ils ont entendu. Vérifient si c'est en accord avec la Bible, en accord avec la parole de Dieu et leur interprétation et son interprétation. Merci Diane. Bon ben voilà, ça n'a pas tardé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que notre monde est en quête d'unité? Je vais enlever pour l'instant le texte. Oui, non? Allez, comme ça, est-ce que vous... Il y a des exemples qui peuvent vous venir à l'esprit de l'unité manifestée que le monde recherche. Est-ce qu'il y a des structures, des faits, des situations qui prouvent que le monde recherche l'unité? L'Union européenne, oui. Les Nations unies, Mercosur. Et j'entends par là quelqu'un qui dit? La même monnaie, oui. Ben, j'en ai trouvé aussi quelques exemples. Donc, il y a l'Union européenne, évidemment. Le mariage qui est accessible à tous. L'unité des religions par l'œcuménisme. On voit aussi les syndicats. Au niveau ethnique, quand on arrive dans un autre pays aussi, généralement, on recherche les personnes dont on est semblable. On se sent le plus proche. Donc, il y a les associations qui se regroupent suite à un même intérêt, une même histoire, etc. Voilà, l'unité, tout le monde est concerné. Et pourquoi, finalement, est-ce que l'on recherche l'unité? Qui sait? Qu'est-ce que ça apporte, l'unité? Tu dis? Il y a la paix, pour rechercher la paix mondiale. Oui, c'est aussi une des motivations de l'Union européenne, en effet. Pour simplifier, c'est plus facile. La force. Voilà, l'union fait la force. En effet, c'est un adage qu'on entend beaucoup. Comment? Aussi, voilà. Comment? Pour s'intégrer, exactement. Quand on est en recherche d'unité aussi, on se trouve une unité à travers le groupe auquel on va appartenir pour la notion de sécurité, mais également l'efficacité dans une mission. Vous connaissez les pétitions? Les pétitions, c'est plus il y a de signatures, plus ce pourquoi vous avez signé a de chances d'être reçu comme étant quelque chose d'intéressant à être discuté, voire défendu. Mais voilà, tout ça pour vous poser la question. Notre monde est en recherche d'unité. Mais finalement, notre Dieu, qu'est-ce qu'il voulait comme unité dès le départ? Et où trouve-t-on l'unité selon Dieu? Une autre question, dans le cas spirituel, peut-il exister d'unité sans vérité? Et quel est le prix de l'unité? Quelques petites questions pour lesquelles on voudrait un peu donner des éléments de réponse. Mais évidemment, c'est vous qui allez avoir la réponse finale dans votre méditation personnelle. Avançons. Donc, l'unité entre les trois personnes de la Trinité, c'est l'objet d'une étude plus complexe, approfondie, qu'on devrait faire en dehors du moment de méditation qu'on a maintenant. Mais voilà, on va aborder quelques éléments de réflexion. Genèse 1, nous dit. Donc pour un peu illustrer cette notion d'unité, Genèse 1 nous dit, faisons l'homme à notre image. À l'image de quoi ? On sait, on a été créé à l'image du Créateur. On est créé à l'image de ce Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette notion de trois personnes se retrouve en nous. Nous sommes corps, âme et esprit. Ça va ? Et ces trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont trois personnes, mais l'expression de, finalement, la même personne. Et elles sont interdépendantes. Pareil pour nous. Nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. On ne peut pas dire que nous sommes ce que nous sommes si on prend l'âme en dehors du corps, l'esprit en dehors de l'âme. On est quelque chose d'uni, quelque chose de un malgré les trois aspects différents. Et c'est une forme de représentation de l'unité de Dieu, de l'image que Dieu voulait lorsqu'il nous a créés. Donc tout être humain a cette harmonie. Une autre illustration rapide de l'unité au sein des trois personnes de Dieu. Donc, Dieu le Père se révèle dans Dieu le Christ. On voit ça dans Jean 14, versets 9 à 11. C'est l'épisode où Philippe dit à Jésus, « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui dit, « Comment montre-nous le Père ? Je suis avec vous. Comment vous dites ça alors que je suis là ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Donc une interdépendance entre Jésus-Christ et le Père. Jésus aussi, on dit qu'il est l'expression de la volonté de Dieu parce qu'il a pratiqué les œuvres que le Père avait préparées pour lui. Et dans Jean 16, verset 13, on parle de l'interdépendance entre Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu. C'est Jésus même qui le dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et qui est la vérité ? D'après Jean 14, verset 6, « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il le dit, il est le chemin. Il est la vérité, pas une vérité parmi tant d'autres. Il est par conséquent la vie. Par ce chemin, par cette vérité seulement peuvent découler la vie. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a fait en sorte que cette unité qu'on retrouve en lui, en Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on retrouve en nous, âme, corps et esprit, il a voulu que cette unité se répande à chacun d'entre nous, pour qu'on puisse, nous aussi, dans notre individualité, être un. Et dans la Bible, on le voit, par exemple, Abraham. On parle d'Abraham et de sa descendance. Pourtant, sa descendance se compose d'un ensemble d'individus. On parle du peuple d'Israël. On parle d'un peuple d'Israël qui est pourtant composé d'enfants d'Israël, d'individus particuliers. Et il y a finalement nous, Église. Nous sommes des individus, une seule Église, pourtant composée d'un ensemble d'individus. Et Jean 17 nous parle de cette volonté de Dieu qu'il y ait cette unité. Donc c'est la prière sacerdotale, je vous laisserai, bon, le verset 21 est particulier, mais je vous laisserai lire ensemble. Comment est-ce que Dieu veut que cette unité se retrouve au milieu de nous ? Et dans ce passage, Jésus parle vraiment aussi de faire la volonté du Père. La volonté du Père dépasse finalement la volonté de l'être humain qui est altéré malheureusement par le péché. Et Dieu, il était tellement désireux qu'on puisse suivre ce chemin-là qu'il a fait venir Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir un modèle concret. On ne puisse pas avoir d'interprétation. Non, que Jésus-Christ soit le modèle à suivre pour avoir la vie. Et Il n'y a aucune vérité en dehors de ça. Ça peut être risqué hein, de dire ça, mais je ne fais que reprendre ce que la Bible dit. En dehors de ça, il n'y a pas de vérité. Dieu nous appelle à... Il ne nous appelle pas à plusieurs unités, quand bien même nous serions une personne individuelle. Il appelle à une seule unité. Il ne peut y avoir qu'une seule unité, tout comme il n'y a qu'une seule vérité en Dieu trinitaire. Et ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qu'il peut y avoir plusieurs unités. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs personnes qu'il peut y avoir une désunion dans le message et dans la pratique du message. Jean 14 nous le montre bien. Le verset 6 nous le montre bien. La partie du verset 9 à 14 nous le montre. Mais vraiment, dans votre réflexion personnelle, lisez tout le chapitre 14. Vous verrez comment Jésus montre qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'unité selon Dieu.
Donc, Anne-Laure a parlé de l'introduction concernant Jésus, concernant Dieu et l'Esprit, l'unité qui existe entre les trois. Et cette unité, bien sûr, Dieu voudrait que nous la reproduisions. Et Dieu le dit justement à travers de Colossiens 1, verset 18. Jésus est la tête de l'Église. Ça, c'est un texte que nous connaissons. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est là, en fin de compte, tout le fondement même du message qu'on a présenté. Qu'est-ce que ça signifie que Jésus serait la tête de l'Église? Si, ce qui est intéressant, c'est que Dieu a fait que nous lui ressemblions. Donc, nous avons une tête et nous avons un corps. Si nous comprenons comment nous fonctionnons en tant qu'individu personnel, nous allons comprendre ce que Jésus veut dire par le fait qu'il est la tête de l'Église. Même s'il y a la fédération, la conférence générale, au-dessus de toutes ces institutions, c'est Jésus-Christ qui domine. Je vais prendre un exemple particulier. Jésus-Christ, imaginons que Jésus-Christ est le cerveau. On peut considérer la conférence générale, par exemple, comme étant une forme de tête. Mais cette tête est censée fonctionner par rapport au cerveau. Et comme nous le savons, le corps obéit au cerveau. Si nous avons un corps qui n'obéit pas au cerveau, nous avons un problème. Au niveau médical, je pense qu'on peut le voir clairement. Et comment se fait-il qu'on puisse imaginer fonctionner sans Jésus-Christ? Ce qui fait que nous devrions chercher, en fin de compte, qu'est-ce que Jésus-Christ est pour nous? Jésus-Christ a laissé un exemple dans sa vie, dans son parcours. Et si nous sommes obéissants réellement à Jésus-Christ, eh bien, le corps suivra exactement ce que Jésus veut. L'inconvénient vient très souvent de ce que nous pensons au-dedans de nous-mêmes. Nous avons une vision personnelle de comment faire les choses. Et c'est ce qui constitue très souvent le fait que l'on dise qu'il y a plusieurs vérités. Ces vérités viennent du fait que l'on a notre propre idée de ce que nous devrions faire, que ce soit en matière spirituelle ou autre chose. Mais la Bible montre par Jésus-Christ que Jésus-Christ obéissait à son Père. Il pratiquait les œuvres que Dieu avait prévues pour lui, ce qui fait que Jésus n'était jamais en contradiction avec ce que Dieu voulait. Et bien sûr, Jésus était en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Il n'y avait aucune confusion. Et notez que Jésus, par exemple, quand on parle de division, on a Jésus qui vient dans le monde, Jésus meurt pour sauver l'homme. Il y a l'Esprit de Dieu qui, lui, en fin de compte, on le voit. Enfin, on ne le voit pas. Enfin, disons que simplement, il est là. On ne sait pas trop où, mais il est là. Et si il devait avoir division, je pense que dans la Trinité, l'exemple de division serait très grand pour nous expliquer que la division serait quelque chose de bon. L'Esprit aurait pu dire qu'on ne parle pas de moi assez dans la Bible. Jésus aurait pu dire pourquoi c'est moi qui dois mourir. Et en fait, quand on regarde tout ça, tous les trois sont en harmonie sur ce qu'ils doivent faire et il n'y a aucune confusion. Ce qui fait que nous, si nous suivons l'exemple de Dieu, nous allons trouver ce qu'est l'unité. Donc, je vais pas lire tous les textes qui sont ici. Quand on parle du corps, et j'aime bien cet exemple, Le corps, je disais, suit en fin de compte le schéma même de ce qu'il y a dans le cerveau. Je suis sur l'estrade. Si je décide de descendre, c'est parce que mon cerveau m'a donné l'ordre de le faire, a donné à mon corps l'ordre de descendre, de lâcher. Si je veux remonter, tout est coordonné. Et mon corps va suivre exactement tous les mouvements qu'il faut pour que je puisse réussir à monter l'escalier. Comment ça se fait? Est-ce que vous saisissez en fin de compte la notion d'unité au travers de cet exemple qui est tout simple? Tous les ordres que mon cerveau donne à mon corps, il le fait. Et lorsqu'on analyse par exemple le fonctionnement de la manche, bon, j'ai le micro dans la main, mais il y a aussi le balancement des bras au niveau des épaules qui fait que quand on se déplace, ce n'est pas les pieds seulement qui bougent, mais c'est l'ensemble du corps qui se déplace. Ce qui fait que si on est une église et qu'on recherche l'unité, même s'il y a un texte qu'on a qui dit qu'il y a diversité de dons, par exemple dans c'est 1 Corinthiens 12, Dieu a donné à l'église diversité de dons, mais tous ces dons ne peuvent pas fonctionner s'ils ne sont pas liés dans l'unité. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de mon corps où je me déplace. C'est-à-dire que mon orteil, toutes les parties de mon corps fonctionnent pour que je me déplace. Ce qui fait que tous les dons que Dieu a donnés à une église sont censés être utilisés pour le déplacement du corps, qui est l'église entière. Donc quand on parle de l'église locale ou bien on parle de l'église le mondiale, tout le corps est censé fonctionner ensemble. Lorsqu'une église ou bien ne fonctionne pas avec le corps, il y a un souci qui se pose. Au niveau médical, on saura examiner ce problème-là pour dire que le corps ne fonctionne pas correctement. Comment se fait-il que parfois, au niveau de l'église, on n'arrive pas à analyser ça en disant que oui, l'église a un problème. Si on n'arrive pas à trouver l'unité, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que dans Éphésiens 4, dans ces versets que je vais prendre, donc vous pouvez prendre aussi Éphésiens 4, versets 1 à 4. Donc, ce texte dit, donc je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher à marcher d'une manière digne à la vocation que vous avez, qui vous a été adressée. En toute humilité, douceur et avec patience, vous supportant les uns les autres. Quand on prend le verset 4, on dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi il y a une seule espérance à laquelle nous avons été appelés. Il existe un seul esprit, donc il ne peut pas avoir plusieurs vérités. Puisque c'est un seul esprit, c'est, je prends encore le schéma du corps, si vous allez chez le médecin, quelqu'un va chez le médecin, et que ce patient dit au médecin que j'ai en moi plusieurs esprits, que dira le médecin? Vous allez chez le médecin, vous savez qu'il y a parfois différentes personnes qui... il y a des gens qui disent qu'il y a... Enfin, qui sont habités de plusieurs esprits. Ils donnent des noms parfois à ces personnes qui interviennent à des moments précis. Si vous allez voir un médecin, quelqu'un va voir un médecin pour ça, ce sera diagnostiqué comme étant un problème au niveau du corps, au niveau de l'individu. Donc, ce qui fait que l'Église ne peut pas fonctionner différemment qu'un corps sain. Si on ne fonctionne pas selon un principe sain, c'est qu'il y a un problème qui se pose au niveau de notre fonctionnement interne. Je dis cela, mais j'aime préciser que ce que je peux dire peut être gênant. Mais ce n'est une attaque que je vois sur aucune personne. La parole de Dieu a été faite pour notre édification personnelle, édification aussi de l'Église. Nous sommes censés, en tant qu'Église, avoir aussi un message. Si une Église n'a pas de message, n'a pas, en fin de compte, n'est pas née de quelque chose de particulier qui donne raison à son existence, cette Église n'a aucune raison d'être là. Si nous n'avons pas de message, ce que nous faisons là n'a aucune importance. C'est-à-dire que si nous avons quelque chose à dire, là, nous avons quelque chose à annoncer au monde. Si je suis un chanteur et que je n'ai aucune chose à dire aux gens, pourquoi je chante? Donc, on a besoin de savoir quel est notre message pour avancer dans une direction commune. Je prends maintenant les versets 11 à 13. Je ne vais pas tout lire. Là, ça reprend un petit peu l'idée de ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Donc, Dieu a donné différents dons, et on parle d'apôtres, on parle de prophètes, évangélistes. Et tout cela, au verset 12, on le dit que c'est pour l'édification du corps. Donc, la Bible confirme que tous ces éléments qui ont été donnés à l'Église, c'est pour notre bien. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre ce qu'est notre bien au travers de ce qui va suivre. Je vais laisser Anon continuer et vous verrez, en fin de compte, une petite vidéo qui va introduire plus clairement ce que je veux dire.
William a parlé de plusieurs personnes en une personne, que si on se retrouve dans ce cas-là, on va voir un médecin, il va nous dire qu'on a un problème. Effectivement, c'est une personnalité multiple. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Il y a dernièrement des films qui sont sortis là-dessus. Mais pour illustrer notre pensée, on voulait vous parler d'une autre maladie, un autre syndrome. Est-ce que vous connaissez le syndrome de Gilles de la Tourette? Oui. Donc, c'est une maladie neurologique donc qui se caractérise par des troubles, des tics, des tocs, troubles involontaires compulsifs, troubles obsessionnels compulsifs. Donc, ce sont des gestes qui vont être parasites. Ce sont soit des manifestations motrices, donc ça va être des gestes, ça va être des spasmes, ou des manifestations parasites verbales. Ça peut être des cris, des sons et des injures. C'est assez particulier, mais voilà. On a prévu une petite vidéo qui illustre cela. Est-ce que la technique peut la lancer? Normalement, juste en appuyant sur l'écran, c'est censé lancer la vidéo. Ça passe ou pas? Non. J'ai déjà changé. Merci beaucoup à la technique. Merci beaucoup aussi pour votre patience. Donc, je vais un petit peu décrire la maladie. Ça sera quand même dit de manière un petit peu plus claire, peut-être dans la vidéo. En tout cas, il s'agit d'un trouble neurologique dont on ne connaît pas exactement les causes. On parle de pistes héréditaires, neuro-immunologiques parfois. Voilà. Pour l'instant, les recherches ne sont pas encore claires. Et il s'agit d'une maladie qui est incurable. Ça va ? Mais il y a des pistes un peu pour atténuer les symptômes. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? Vous avez réussi à suivre malgré autres éléments perturbateurs. Vous voyez un petit peu de quoi il ressort, quel est ce syndrome? Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Je trouve que, allez, mine de rien, ça illustre bien la désorganisation entre la tête. Donc, quand je dis la tête, c'est le siège de la décision, hein. Pas forcément la tête en tant que telle, mais voilà. Il y a une désunion entre le siège de la décision et finalement l'expression des décisions des individus qui sont atteints par ce syndrome. Ces personnes, donc, comme on l'a vu, elles expriment finalement quelque chose qu'elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie d'exprimer et se retrouvent dérangées avec leur capacité, non pas altérée, mais en tout cas fort perturbée par tous ces gestes et ces perturbations verbales qu'elles ont. Et même si c'est une sorte, c'est dérangeant, mais on peut voir malgré tout une forme d'ordre dans ce désordre, parce que ce sont souvent des gestes ou des sons ou des mots qui reviennent. Ce sont un peu les mêmes qu'on retrouve chez la personne ou même chez les autres personnes atteintes de ce syndrome. Et donc, on voit une forme d'organisation dans ce désordre qui est complètement dissociée de la volonté de l'individu. Et pour faire un peu le parallèle avec l'Église, donc comme William disait, il peut exister on peut vouloir une unité parfois qui n'est pas finalement celle que Dieu veut, le siège de la volonté Dieu voudrait. Et on voit ça dans plein de contextes, hein, dans la Bible, c'est arrivé plusieurs fois. Caïn et Abel, Dieu avait un culte qu'il agréait et pourtant, à ce moment-là, il y a eu deux cultes qui se sont présentés. Il y a eu une désunion entre ce qui a été fait, donc ce qui a été exprimé alors que la tête voulait autre chose. La tour de Babel, il y a eu une forme d'unité entre ces hommes qui ont voulu faire une tour pour atteindre Dieu, mais finalement, était-ce la volonté de Dieu? Il y a d'autres exemples, Joseph et ses frères, le peuple d'Israël. Alors là, le peuple d'Israël, on en voit des exemples. Les plaintes dans le désert, la remise en question du choix de Dieu sur Aaron et Moïse, le veau d'or, les diverses rébellions qu'il y a eu, etc. Le peuple juif. Et les exemples sont nombreux. Comme dit la vidéo, par contre, il n'y a pas de guérison à la maladie de Gilles de la Tourette. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a juste des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, chirurgicales aussi, qui peuvent atténuer l'expression de ces gestes parasites. Ce dernier point, c'est quelque chose d'assez intéressant et William va vous en parler. Il va vous dire pourquoi est-ce que c'est... pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui en tant qu'Église.
Donc, lorsqu'il est question donc, du corps que représente l'Église, il arrive bien souvent que ce corps fonctionne exactement comme la maladie qui a été montrée à l'écran. Malheureusement, Dieu nous a appelés à quelque chose de précis, à présenter un message au monde entier pour que toute l'humanité puisse entendre parler de lui et prendre la direction pour se joindre à ce corps pour la vie éternelle. Maintenant, lorsque le corps ne fait pas la volonté de Dieu, il en résulte, en fin de compte, des réactions comme la maladie qui a été montrée. Peut-être qu'on n'y pense pas, et ça, je le dis, ce n'est pas une attaque que j'envoie sur qui que ce soit. J'aimerais que ça soit vraiment clair. De toute manière, ça veut dire que chacun de vous, même si je ne connais pas tout le monde précisément, mais j'aime tout le monde, tous ceux qui sont présents ici. Et non seulement ici seulement, mais ailleurs. Et donc, je n'ai pas de ressentiment contre qui que ce soit. Mais nous avons un message. Et je crois qu'il faut vraiment demeurer sur ce message et le comprendre pour le présenter. L'Église mondiale donc, est composée de différentes églises de par le monde. Toutes ces églises sont censées avoir un message commun. Parce qu'il n'y a qu'une tête, enfin, il n'y a qu'un cerveau qui est Jésus-Christ. Donc, il y a un message commun. Et on dit par exemple que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Donc il y a bien une vérité. Sinon, il dirait en fin de compte que chacun peut avoir sa propre vérité. Et en fin de compte, lorsque l'Église n'est pas en harmonie vis-à-vis de ce message commun, eh bien, le résultat, c'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo. Il y a une tête qui va penser quelque chose, il y a le bras qui va décider, en fin de compte, je ne suis pas d'accord avec la tête, je fais comme je veux. L'autre bras va dire qu'il fait aussi comme il veut. Donc, essayez d'imaginer toutes les églises dans le monde, les églises adventistes dans le monde, et que chacune de ces églises a un message différent, a son message à lui. Finalement, eh bien, on se retrouve avec un corps qui est complètement discordant. Parce qu'il y a différents messages et on ne trouve pas d'harmonie dans ces messages. Et le problème, c'est que tout le monde, enfin, beaucoup de personnes trouvent ça normal. Alors qu'on est censé être un corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est censé être un corps. Et donc, le fait qu'il y ait que chaque partie, chaque église puisse avoir son message à lui ou sa vision, il y a un truc qui ne colle pas. Et donc, on devrait chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu, puisque ce n'est pas normal que le corps puisse avoir ces dissensions. Si nous comprenons ce que Jésus est venu faire dans ce monde, il est venu montrer un exemple, c'est que cet exemple n'est certainement pas compris correctement. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des messages différents. Il n'y a pas de recherche réelle de cohérence avec ce message. La Bible nous dit en fait compte que l'Esprit de Dieu est censé être là pour nous, pour créer cette connexion entre nous. Si on n'a pas de message clair, c'est que le travail que l'Esprit de Dieu est censé faire dans toutes ces églises ou dans les individus qui composent ces églises, le travail n'est pas encore fait ou qu'on n'est pas encore arrivé à comprendre le véritable message que Dieu a pour nous. Et là, moi, je veux vraiment rester sur l'essentiel, ce qui est important. Et je parle vraiment à une église, à des personnes. Il y a des enfants, mais je parle de personnes matures. On est censé être mature spirituellement et aborder des sujets qui parfois sont gênants parce que le but, c'est de comprendre le message que Dieu a pour nous. Il y a des messages qui sont parfois gênants dans la Bible, mais le problème, c'est que ça peut être gênant comme ça veut. Le problème, c'est que quel est notre comportement vis-à-vis de ce message? Est-ce que nous essayons de comprendre le message contenu dans la Bible ou parfois est-ce que nous mettons en avant plus les sentiments? Nous avons, la Bible nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On ne nous dit pas de nous appuyer sur nos sentiments à nous. Puisque nos sentiments, nous sommes touchés par le péché et qui fait que nos sentiments sont complètement... nos sentiments ne sont pas clairs. Et nous avons besoin, en fin de compte, des sentiments de Jésus-Christ pour avoir une stabilité. Et dans la Bible... Il y a Ésaïe 30, versets 8 à 18. Ce texte-là, peut-être que certaines personnes ne connaissent pas ce texte, mais c'est Dieu qui dit à Ésaïe d'écrire sur une table la vérité qu'il lui transmet, et il lui dit de l'écrire de manière à ce que cette vérité puisse durer éternellement. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Il ne lui dit pas d'écrire sur une table pour que ça puisse durer quelques jours, mais pour que ça puisse durer dans le temps. Ce qui fait que tous ceux qui vont le lire vont comprendre la vérité qui est inscrite dans ce message. Ce qui fait que ce qu'Ésaïe a voulu dire n'a pas changé pour nous aujourd'hui. Et très souvent, il nous faut faire un retour en arrière pour réaliser ce qu'on a raté, pour mieux avancer. Il y a une histoire qui est parfois... cause de grandes discussions au niveau de l'Église, qu'on retrouve dans Luc 22, verset 42, et aussi dans Matthieu 16, verset 23. La grande question est, est-ce que Jésus devait mourir? On a différentes interprétations par rapport à ça. C'est un exemple parmi tant d'autres que je mets en avant pour comprendre en fait, où se situe le problème. Est-ce que Jésus devait mourir? Est-ce que ce n'était pas prévu dans le plan? Est-ce qu'il est mort par inadvertance, c'est-à-dire que finalement, il est venu faire un ministère et puis hop, on l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le but, c'est de comprendre cette réalité. Non, parce que je vois Marianne qui rit, mais c'est exprès que j'ai prononcé la chose comme ça. C'est que parfois on a l'impression que Jésus est venu faire un ministère et puis on l'a pris et puis on l'a tué. Quand vous lisez Luc 22, verset 42, qu'est-ce que ce texte nous dit? Donc je récupère ce texte rapidement. Donc, c'est lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané et qu'il est souffrant, enfin, il a une grande souffrance morale parce qu'il va passer par l'épreuve de la croix. Jésus a peur et il demande à son Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, comprendre la situation. Jésus savait qu'il allait mourir puisqu'il le disait depuis le début de son ministère. À plusieurs reprises, il dit à ses disciples, je vais mourir. Et après 3 jours, je ressusciterai. Donc il savait qu'il allait mourir. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, il le savait. Et arrivé à ce moment précis, il est devant la réalité de ce qui était prévu. Et là, il a peur. Et sa nature humaine prend le dessus. Comme pour n'importe quelle personne qui se retrouve devant une situation qui est une épreuve. Même si vous avez étudié pour un examen, le jour où vous vous retrouvez devant la feuille d'examen pour rédiger répondre aux questions qui sont posées, vous avez peur au fond de vous. Pour certaines personnes, sauf pour ceux qui sont vraiment très à l'aise, mais beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils sont devant l'épreuve. Et devant l'épreuve, ils n'ont plus la même assurance qu'ils avaient lorsqu'ils étudiaient. Ou le fait que comme ils maîtrisent un sujet, bon, c'est bon, je vais réussir. Parfois, devant l'épreuve, on perd nos moyens. Jésus, c'est la même chose, c'était un homme. Et arrivé devant la croix, l'assurance avec laquelle il disait aux disciples, je vais mourir, et puis après 3 jours, je ressusciterai, cette assurance a disparu. Et là, l'homme reprend la place. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il demande à son Père s'il est possible que le plan soit différent. Mais il y a une sécurité que Jésus va mettre en avant et qui est très importante et que chaque personne qui compose l'église adventiste ou bien l'église, qu'importe, si vous recherchez la vérité, Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette petite parole-là est très importante et règle beaucoup de problèmes. Lorsque nous sommes dans le doute vis-à-vis d'un texte que nous avons lu, il est préférable de dire à Dieu, le texte me gêne, ou je ne le comprends pas. Aide-moi à le comprendre, afin que je comprenne ta volonté. Pour éviter justement de mettre en avant nos sentiments dans le texte et transmettre un message qui est différent de ce que le texte veut dire. Parce que si on reste sur le fait qu'un texte nous gêne, on va forcément penser différemment parce que l'humain prend le dessus. Mais Jésus dit que ta volonté soit faite. Et Jésus, finalement, passe par la croix. La grande question peut se dire maintenant, est-ce que Dieu a vraiment répondu à Jésus? On va prendre le texte qui suit, Matthieu 16, versets 22 et 23. C'est une histoire que nous connaissons aussi. Pierre va dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné ça, qui t'a dit de dire ça. Dieu remarque en fin de compte que Pierre a dit quelque chose qui est vrai. Il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a dit. Mais quelques instants dans la discussion après, le même Pierre qui a dit à Jésus cette parole que Jésus a reconnue lui-même comme étant venant de Dieu, il dit à Jésus, tu ne mourras pas quand Jésus lui dit qu'il va mourir. Quelle est la réponse de Jésus? Continue, regarde-moi Satan ensuite, parce que tu as la pensée des hommes. Il ne dit pas que Pierre est Satan, mais derrière les propos de Pierre, il y a Satan qui agite quelque chose pour empêcher à Jésus de réaliser quelque chose d'important. Notez ce que Pierre fait et la réponse de Jésus, on va analyser cela. Pierre aime Jésus. Il ne veut pas que Jésus meure. C'est tout à fait normal. Ils ont vécu ensemble pendant un nombre de temps. Il y a eu des liens qui se sont faits. Mais arrivé devant cette parole que Jésus lui dit, qui est grave et qui remet en question même le projet qu'ils ont, parce qu'ils souhaitent que Jésus devienne roi. Mais finalement, Jésus montre finalement que le projet là que vous avez, que je deviens des rois, mais ça n'arrivera pas comme vous le pensez. Et là, l'humain prend le dessus. Donc Pierre, qui avait l'Esprit de Dieu il y a quelques instants, là c'est fini, l'Esprit de Dieu a disparu. Et là, il met en avant sa nature humaine. Et il dit à Jésus, tu ne mourras pas. Mais la réponse de Jésus est importante, c'est que Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Parce que Pierre voulait empêcher au projet de Dieu de se réaliser. Il y a un projet qui a été établi, et là Pierre, dans ses propos, met un obstacle entre Dieu et Jésus. Et Jésus, en fin de compte, veut remettre les choses à leur place. Il va dire, arrière de moi Satan, parce que tu as la pensée des hommes, et ta pensée va m'empêcher de réaliser le plan de Dieu. Ce que je dis, c'est très important. Lorsque nous nous retrouvons devant ce genre de texte, il y a plusieurs manières dont nous pouvons fonctionner. Soit accepter l'idée que le texte, ce que ça dit, même si ça nous dérange, ou bien chercher une autre explication. Et j'aimerais dire que lorsque la pensée d'une autre explication vient, il serait bon de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je n'arrive pas à comprendre le texte, ou le texte me dérange. Aide-moi à comprendre ta volonté ou accepter ce que tu veux dire. Cette démarche-là, on ne la fait pas. Quand on étudie la Bible on devrait prendre prier quand on étudie la Bible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à comprendre ce que la Bible veut dire. Jésus lui-même n'avait pas de problème vis-à-vis de ce ministère qu'il avait à accomplir. Quand vous lisez la Bible, Jésus le disait à plusieurs reprises, il n'avait aucun problème vis-à-vis de cela. Le problème venait de la nature humaine. C'est l'homme qui a un souci avec et qui va chercher autre chose. Et aujourd'hui, maintenant, essayons de reprendre le contexte de cette histoire et à le replacer aujourd'hui. Si aujourd'hui, on défend par exemple l'idée que Jésus ne devait pas mourir, désolé, est-ce que Jésus ne nous dirait pas la même chose? C'est une question importante. Lorsque nous pouvons avancer l'idée que Jésus ne devait pas mourir, alors que lorsqu'on regarde dans la Bible, Jésus dit à plusieurs reprises que ça va arriver. Même le premier miracle de Jésus, le mariage de Cana, est le symbole même de la mort de Jésus. Quand on prend le principe du baptême, plonger dans l'eau et puis revenir, ça veut dire quoi? Mourir et renaître. Le principe même de la mort de Jésus, sa résurrection, est dans le baptême. Comment peut-on dire que Jésus ne devait pas mourir, puisque tout le principe même était basé sur ça? Et en fin de compte, c'est là le cœur du problème. Ta volonté, non pas la mienne. Essayons parfois, lorsque nous lisons la Bible, de demander à Dieu, de lui dire ça franchement. Quand nous abordons des textes difficiles ou des textes qui mettent en avant des choses qui nous choquent. Et j'aimerais vraiment le texte d'Amos qui parle de l'Église, puisque le truc c'est que l'Église est censée avoir un message commun. Amos va dire, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans être en accord? L'Église a un message qu'elle doit transmettre. Mais il faut qu'elle trouve l'harmonie. Discuter sur les textes qui sont difficiles et rechercher par l'Esprit de Dieu quelle est la vérité contenue dans la Bible. Et je terminerai par un élément qui est important, parce qu'on parle de l'Église. Ça. En tant qu'adventiste, nous savons ce que c'est. Il arrive parfois que nous n'acceptions pas ce projet. Et j'aimerais vous dire que le sanctuaire que Dieu avait donné aux enfants d'Israël dans le désert, si vous analysez bien le sanctuaire, vous verrez que le sanctuaire parle de beaucoup de choses. Le principe de la Trinité est contenu dans le sanctuaire. Mais ça, je ne peux pas l'aborder ici. Il y a un autre plan qu'il y a dans le sanctuaire. Le sanctuaire montre le chemin personnel de chaque croyant. Je rappelle les éléments pour bien comprendre ce que je veux dire. Nous sommes une église mondiale et nous sommes des individus personnels. C'est-à-dire que Dieu nous donne un culte personnel à avoir qu'on retrouve dans le sanctuaire. Et au niveau de l'église mondiale, on a le même projet pour avancer dans le sanctuaire. Le sanctuaire montre, la première chose qu'il y a dans le sanctuaire, c'est la porte. La porte, Jésus dit qu'il est la porte des brebis. C'est par lui qu'il faut passer. C'est lui le chemin. Ensuite, le premier meuble qu'il y a dans le sanctuaire, c'est l'autel des sacrifices. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Jésus, de sa mort. Parce que lorsqu'on est dans le projet de Dieu, le premier ustensile qu'on va trouver dans notre parcours chrétien, c'est l'acceptation du sacrifice de Jésus. Ensuite, quand on a compris le sacrifice de Jésus, on passe à l'autre partie, la cuve des reins. Dans cette cuve, les prêtres lavaient leurs mains qui étaient remplies de sang pour se purifier, pour entrer dans l'autre pièce. Symboliquement, cette cuve des reins va représenter pour la purification l'eau pure, le baptême. Quand on accepte Jésus-Christ, on dit « Je reconnais Jésus-Christ comme étant le sauveur ». Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisés? Puisque c'est logique. Si on accepte le principe même du sacrifice, la prochaine étape, eh bien, c'est juste une manifestation de ce qu'on a cru, donc le baptême. Ensuite, une fois qu'on a fait le baptême, on passe dans cette pièce où on parle donc déjà le lieu saint, puisque la tente était séparée en deux, lieu saint, lieu très saint. Et dans le lieu saint, on retrouve trois éléments, les pains de proposition, qui représente la parole de Dieu. Jésus va dire qu'il était la manne qui tombe du ciel. Donc le pain, on doit manger la parole de Dieu tous les jours. Ce pain était changé tous les jours. Pain sans levain. Donc ce pain est censé être pour nous purifier. Ensuite, on avait de l'autre côté, enfin face à la table des propositions et des pains de proposition, il y avait le chandelier. Le chandelier, c'est un symbole de l'Esprit de Dieu ou de l'Église qu'on retrouve dans l'Apocalypse de l'Église, donc l'unité de l'Église. Et l'Église est liée par quand on analyse en fin de compte le chandelier, il y avait sept branches et c'est la même huile qui passait dans les branches. Donc l'Esprit de Dieu est en commun avec toutes ces églises. On a ensuite l'autel des parfums, la prière des saints. Le culte, on doit prier tous les jours. Et quand on prie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du rideau? L'arche de l'Alliance, dans lequel il y a le bâton d'Aaron, donc la direction de Dieu. Il y a la manne, qui est parfois utilisée pour présenter la dîme, mais qui est aussi le symbole même de la nourriture spirituelle. Et aussi, c'est un souvenir qu'il fallait garder. Et il y avait les 10 commandements. Témoignage de la loi de Dieu, ou des paroles de Dieu, en tout cas, quelque chose qui est censé être vraiment, qui est censé nous ramener à la vérité concernant Dieu. Et cet élément qu'on parle de l'Arche de l'Alliance est aussi un lieu dans lequel le grand prêtre entrait une fois par an, dans le très saint, pour le jugement. Voici en fin de compte le parcours de notre vie en tant qu'individu. Chacun, nous avons ce parcours à réaliser. Et maintenant, si chaque croyant fait ce parcours pour toujours aller vers Dieu, l'Église mondiale finalement fait le même parcours. Et toutes les églises, ça veut dire que l'Église mondiale adventiste, s'il comprend ce principe, il n'y aura pas de dissension. Parce qu'on a tous le même message, et ce message, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Donc ce message présente le culte personnel et le culte de l'Église mondiale. Maintenant, ce projet aussi représente les prophéties. C'est le même principe que Jean va récupérer pour montrer le plan de Dieu au travers de l'histoire du monde pour expliquer les prophéties. Nous avons déjà ici tout le plan que Dieu a prévu pour tous les chrétiens. Donc maintenant, c'est à nous d'accepter la volonté de Dieu ou de rester en fait compte sur notre position par rapport à ce que nous pensons être la vérité.
Finalement, on peut constater que le message de Dieu n'est pas quelque chose de populaire. Hein. C'est un message un peu qui dérange. Mais Dieu nous demande malgré tout de briller par la pratique de sa vérité. On ne va peut-être pas briller aux yeux du monde. Jésus n'a pas brillé aux yeux du monde. Et il a dit même que vous n'êtes pas plus que le maître. Ce qui lui est arrivé, n'attendez pas à ce que ça ne vous arrive pas. Je dis pas ça pour faire peur ou pour dire qu'on va finir comme Jésus. Je dis seulement que il n'a pas brillé auprès des hommes, mais Jésus a été élevé roi des rois. Jésus, par son ministère, a finalement fait la volonté de Dieu. Et il nous appelle à faire la même chose. C'est pas la popularité ou l'impopularité qui doit déterminer notre fidélité au principe de Dieu. C'est pas non plus le monde et son évolution qui doit influencer notre considération du message de Dieu. Le peuple de Dieu rayonnera aux yeux de Dieu par la pratique de sa vérité. Et c'est le verset d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure. Comment Jésus a résolu le dilemme face à la croix? Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et je pense que c'est un exemple pour nous à suivre aujourd'hui. Amen.